BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les cryptos et les blockchains. Les pros des cryptos à domicile chaque vendredi. On est ravis de vous retrouver. Nos NFT sont bien sûr présents sur le pont. Nos talents d'anges fongibles, rien qu'à nous, ils sont là. Vous les attendez ? Claire Balva nous rejoint. Claire Balva pour Débloque chaque vendredi à nos côtés en plateau. Bonjour Claire, bienvenue. Thibaut Boutroux aussi nous accompagne aujourd'hui. Il nous vient de Metz, à Moselle chérie. Il a fait le déplacement à Paris pour participer à ce rendez-vous, ce nouvel épisode des Pros des Cryptos. Bonjour Thibaut, bienvenue.
Bonjour Guillaume.
Thibaut Boutroux pour Meria. Dans un instant, bien sûr, on parcourra l'ensemble des titres à la une de cette nouvelle semaine d'Actu Crypto. Mais d'abord, le potentiel sur les cours du Bitcoin, de l'Ether. C'est Xavier Fenot qui va nous éclairer là-dessus. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Associé pour Interactive Trading sur le Bitcoin, Xavier, on a vu un rebond là ces dernières heures. Comment est-ce que vous voyez la suite ?
C'est vrai que c'était une belle semaine pour Bitcoin qui gagne plus de 10% depuis lundi et va s'attaquer maintenant, ni plus ni moins, à ses plus hauts de l'année 2024, les 49 000 $. Alors, cette nouvelle impulsion haussière qu'on est en train de connaître et en train de vivre, c'est assez légitime puisque, sans forcément parler de corrélation, cette classe d'actifs risqués a tendance à avoir les mêmes comportements que les marchés traditionnels qui, eux, restent cotés au plafond depuis des jours et même des semaines. Et là, Bitcoin avait un peu de retard et puis légitime parce qu'on avait pendant plus d'une semaine un étau de compression sur Bitcoin entre 42 000 et 44 000 dollars qui succédait à une impulsion haussière et on sait qu'on a plus de probabilité de poursuivre une tendance précédente que de la retourner car les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Et donc en sortant de cet étau de compression très observé, et j'en parlais d'ailleurs ici en début de semaine, regain d'intérêt, retour de volatilité, reprise de la tendance. Donc demain, on pourrait même avoir ce qu'on appelle un short squeeze. Des vendeurs qui jouaient une baisse du Bitcoin rachètent leur position. Donc ça déclenche des achats sur le marché. Et ça pourrait permettre d'aller voir ce qui se passe à 50 000 $ sur Bitcoin. En tout cas, tant qu'on restera au-dessus des 45 000 $, c'est le scénario privilégié. Et puis, dernière chose, oui, en début d'année, en fait, ça n'a pas été terrible sur le Bitcoin. On passait même sous les 40 000 $, mais sans retourner cette nouvelle psychologie positive mise en place depuis finalement fin octobre. Donc on a profité pour faire beaucoup d'opérations, notamment sur les altcoins, pour accompagner ce mouvement. Et à l'inverse, aujourd'hui, ces prochaines heures, voire jours, risque d'y avoir de l'euphorie sur le marché. Donc c'est pas forcément maintenant qu'il faut faire du FOMO, ce qu'on appelle cette peur de louper un mouvement, et finalement de plus savoir quoi faire à la moindre petite consolidation, comme on a connu d'ailleurs en début d'année. Donc c'est pour ça qu'on va même en profiter pour alléger sur notre gestion active. Donc toujours progressif dans ses choix, mais clairement là, tout est positif. Et là, sur Bitcoin, en tout cas, tant qu'il tiendra les 45 000 $.
Oui, il y a eu un petit coup de mou quand les banquiers centraux ont quand même rappelé qu'il n'y aurait sans doute pas de baisse de taux aussi rapide que ce que le marché espérait. Voilà, on a eu un petit coup de mou récent effectivement sur Bitcoin par exemple. Et puis maintenant, on sent que c'est en train de s'ajuster, c'est en train peut-être d'entrer dans les cours aussi parce que des politiques monétaires aussi dépendra sans doute une partie de la tendance sur les cryptos. Il n'y a pas de décorrélation totale non plus. Vous parliez du Bitcoin à l'instant, Xavier. Un mot peut-être aussi de l'Ether. On était à un peu plus de 2 510 $ en ce moment.
C'est positif aussi sur l'Ether, mais plus lent que son copain Bitcoin, même si aujourd'hui il gagne à peu près tous les 2-4%. On a une très belle zone technique à 2100-2200 $. Ça, c'est un support qui succède du coup à une tendance haussière. Donc là, on en profitait pour faire des soldes à ce moment-là, parce qu'il avait reperdu quand même presque 20% depuis les plus hauts de l'année. Donc aujourd'hui, on arrive à repasser, vous l'avez dit, au-dessus des 2400 $. Et c'est cette zone clé qu'il devra préserver pour rester dans cette positive attitude. Direction a priori des plus hauts annuels autour des 2650-2700 $ dans un premier temps. Et puis toujours à moyen terme, j'ai toujours comme objectif 3600 $ sur l'Ether.
Merci beaucoup. Xavier Fenot en direct régulièrement avec nous, associé d'Interactive Trading. L'actu de la semaine, intéressante cette actualité qu'on va parcourir ensemble en un peu plus de 20 minutes comme chaque vendredi. D'abord l'intelligence artificielle. L'IA chamboulera-t-elle les exchanges crypto? Les IA commencent à générer manifestement de fausses cartes d'identité. Les KYC pourraient-ils les KYC être potentiellement dépassés par l'IA? On va en parler dans un instant. De son côté, Janet Yellen aux États-Unis demande plus de régulation crypto. Deux lois seraient en préparation aux États-Unis. Un rapport sur la stabilité financière très attendu aussi. Quel avenir pour la réglementation américaine? Et puis, on appelle ça un fake Toshi. Un homme qui se fait passer pour Satoshi Nakamoto, qui pense peut-être être réellement Satoshi Nakamoto, qui sait? Eh bien, cet homme comparé devant les juges. Son procès, il s'appelle Craig White. C'est un Australien. Son procès a débuté cette semaine. Il prétend donc être le fondateur, le créateur de Bitcoin, sauf qu'il n'en a jusqu'ici jamais apporté la preuve. Et il n'est pas le seul à prétendre être Satoshi Nakamoto. On les appelle donc les fake Toshi. On va vous les présenter avec nos experts, nos pros des cryptos. C'est votre machine à refaire l'actu de la semaine. Elle s'enclenche cette machine. Venez avec nous. On vous emmène.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec pour nous accompagner nos NFT, nos talents non fongibles, Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Les blocs et Thibaut Boutroux qui nous accompagne pour Meria. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, on est content de vous retrouver tous les deux avec encore une actualité très très intéressante cette semaine, de nouveaux développements dans l'IA. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'OpenAI comptait lever 7 000 milliards de dollars. Vous l'avez bien entendu, c'est plus du double du PIB de la France. Ils ont besoin chez OpenAI de 7 000 milliards pour mener à bien l'ensemble de leur développement. On ne sait pas encore complètement à quoi serviraient ces 7 000 milliards. Mais enfin, quelle annonce. Et nous, on s'intéresse à l'impact des IA sur les cryptos. L'IA est-elle une concurrente à l'écosystème crypto ou un levier peut-être opérationnel, un levier à venir de développement pour cet écosystème? On pose souvent cette question ici, mais là on va l'aborder sous un angle nouveau. On va parler de l'IA et des grandes plateformes d'exchange. L'IA pourrait-elle, Thibaut, déstabiliser les plateformes d'exchange? Et vous en représentez une, à savoir Meria, mais il n'y a pas que vous, bien sûr.
Ouais. Alors pourquoi on pose cette question? Parce qu'il y a eu un petit événement cette semaine. C'est une enquête d'un média qui s'appelle 404 qui s'est amusé avec différentes plateformes à générer en fait des fausses pièces d'identité grâce à de l'IA. Et pour pousser en fait encore un petit peu plus loin, il a été testé en fait ces fausses pièces d'identité sur des plateformes d'exchange pour passer le KYC. Le rendu est très réaliste. On peut aller jusqu'à simuler en fait le support sur lequel on va poser la pièce d'identité, donc ça rend quelque chose qui fonctionne assez bien. Et il s'est avéré qu'ils ont passé les vérifications sur certaines plateformes, dont OKEX. Donc naturellement, ça pose pas mal de questions. Ça a réagi assez rapidement. Il faut quand même nuancer tout ce qui a été dit. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que un KYC ne se limite pas à une pièce d'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes sur une plateforme française, notamment sur Meria, avec juste une pièce d'identité, globalement, vous pouvez pas faire grand-chose. Il faut quand même beaucoup plus de documentation. Et avec les prochaines étapes et les exigences réglementaires qui sont en train de se durcir, il faudra encore plus que ça. Donc avec les nouvelles mesures, la seconde mesure, le PVID, le 3D Secure, etc., ça sera quand même beaucoup plus compliqué de passer outre toutes ces vérifications, ou alors ça sera beaucoup plus énergivore ou beaucoup plus coûteux que ça ne l'est actuellement. Donc ça découragera peut-être aussi les acteurs. Et il y a aussi plusieurs providers KYC qui ont pris la parole, dont Onfido, qui n'ont pas attendu en fait ce genre d'enquête pour se mettre sur le sujet. Ils ont conscience de ce qu'on peut faire avec de l'IA. Ils sont sur ces sujets pour essayer de répondre en fait aux exigences. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui se limite pas à l'écosystème crypto, parce que l'écosystème crypto n'est pas le seul dans lequel on a besoin d'une pièce d'identité pour faire des choses. Donc ça concerne aussi les acteurs de la finance plus traditionnelle et aussi plein d'autres secteurs d'activité. Donc naturellement que le sujet va être étudié, et pour moi il faut pas être si alarmiste que ça.
L'IA et les cryptos, on n'est pas au bout de cette thématique et de ce sujet, les enjeux effectivement. Bon, sur les KYC, vous dites ça va, enfin, on va voir comment les choses évoluent et se développent. Donald Trump a dit qu'il était contre l'intelligence artificielle. Au moins ça mérite d'être simple, il est contre l'IA. Les USA d'ailleurs, dont on se demande s'ils vont se réconcilier peu à peu avec cet écosystème crypto. Validation des ETF Bitcoin, c'est fait. Validation attendue des ETF Ethereum. Mais comme en Europe, la régulation semble aussi vouloir désormais avancer, voire accélérer. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a appelé Claire à plus de régulation des cryptos cette semaine. Et deux lois seraient désormais en préparation.
Oui, alors on n'a pas beaucoup d'informations, mais les lois en question porteraient d'une part sur les stablecoins et d'autre part sur les plateformes d'échange. Donc ça nous fait quand même beaucoup penser aux lois qui sont en train d'être mises en place en Europe avec MiCA, puisque MiCA régule principalement les intermédiaires, à savoir les PSAN, ou les CASP, donc les plateformes d'échange crypto, et les émetteurs de stablecoin. Donc c'est pas une surprise ce qui se passe aux États-Unis, c'est tout simplement qu'ils sont en train de mettre en place leur réglementation. Janet Yellen et plus généralement le Trésor américain sont assez méfiants sur les cryptos. Elle avait parlé d'un moment Lehman Brothers quand FTX s'était effondré. Donc on sent quand même que maintenant voilà, on a laissé faire pendant quelques années, mais le secteur est devenu trop gros, il est temps de réguler. Et c'est là qu'on prend conscience qu'en Europe, on a un temps d'avance pour le meilleur et pour le pire sur la réglementation.
Oui, pour le meilleur et pour le pire quand même. Bon, votre regard là-dessus sur les Américains, la réglementation, Janet Yellen qui appelle à accélérer à quelques mois de la présidentielle aussi aux États-Unis, Thibault.
Bah, Assez logique, hein. Finalement, globalement, déjà, on voit deux mouvements qui sont en train de se distinguer aux États-Unis avec les démocrates et les républicains qui ont deux approches qui sont très, très différentes sur le sujet.
Il y a un camp pro-crypto et un camp anti-crypto.
C'est ça. On a les républicains qui vont plutôt avoir une approche favorable. Alors, pas forcément favorable aux cryptos, mais plutôt favorable à l'innovation et tout ce qui va représenter ce qu'on appelle le rêve américain. Et de l'autre côté, les démocrates qui vont plutôt être pour une régulation beaucoup plus appuyée. Alors, c'est pas dire qu'ils sont pour ou contre, mais c'est pareil. Mais en tout cas, ils vont plutôt l'accès, le développement sur la partie réglementaire. Donc, c'est pas surprenant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça embrasse le mouvement qui a été fait un petit peu en Europe. Et ça rejoint aussi une étude qui avait été faite par Coinbase en fin d'année dernière, où ils avaient fait un rapport sur l'adoption crypto aux États-Unis, qu'ils avaient orienté justement sur le modèle du rêve américain. Et la conclusion, c'était qu'il fallait être attentif parce que il y avait notamment sur la jeune génération, une grande partie qui se disait plutôt enclin à voter pour un candidat qui était favorable aux cryptos aux prochaines élections. Mmh. Et cette tranche de la population, elle représente quand même une proportion des votants assez importante. Donc c'est pas non plus une surprise de voir du coup les candidats se poser sur le sujet. Et à mon avis, on va voir beaucoup de candidats qui en tout cas vont en parler. Après, faut pas que ça devienne de la récupération politique, donc il va falloir être attentif à ce qui est dit.
Signe que la régulation en tout cas avance déjà aux États-Unis, les cryptos anonymes disparaissent peu à peu des grandes plateformes d'exchange. Binance vient de délister le XMR de Monero. Un timing pour Binance qui, Claire, pourrait d'ailleurs l'aider à se faire un peu mieux voir de la SEC.
Oui, alors là aussi, c'est pas du tout une surprise puisque les crypto-monnaies sont incensurables mais sont traçables sauf certaines qui sont anonymes. Et forcément, pour le régulateur, des crypto-monnaies anonymes et intraçables, c'est vraiment la bête noire parce que ça veut dire qu'on ne peut pas remonter des filières criminelles. Donc, c'est vraiment important pour le régulateur d'éviter l'utilisation de toutes ces crypto-monnaies. Donc, par exemple, en France, Binance avait déjà restreint pour les Français l'accès à certaines crypto-monnaies anonymes, notamment Monero. Donc, ils avaient envoyé un email en juin dernier pour dire, voilà, les Français, vous ne pourrez plus acheter des crypto-monnaies anonymes sur Binance. On a d'autres plateformes qui ont déjà opéré ce délisting. Hein. C'est le cas d'OKX, par exemple, qui avait annoncé ça début janvier. Ils ont enlevé un certain nombre de crypto-monnaies anonymes de leur site. Alors, un délisting, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. C'est pas, voilà, on enlève une crypto-monnaie de la plateforme.
C'est pas un bouton sur lequel on appuie, non.
Vous avez des utilisateurs qui ont des crypto-monnaies sur cette plateforme, donc ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que Binance accepte encore les dépôts et les retraits jusqu'au 21 février et ensuite n'acceptera plus que les retraits pendant encore quelques semaines, donc ça se fait progressivement. Mais tout ça va encore une fois dans le sens d'une plus grande maturité et conformité du secteur. Là aussi, on peut avoir tout un débat évidemment sur vie privée, surveillance généralisée, etc. Mais c'est très logique, encore une fois, que le régulateur s'attaque à ces sujets-là.
Les pros des cryptos, une semaine d'actu crypto condensée en 24, 25 minutes, parfois 26 quand je déborde, et ça m'arrive. Et un grand merci à nos réalisateurs Fabien et Christophe qui... C'est vrai, supporte tous mes retards chaque jour. Tiens, puisqu'on est en train de parcourir l'ensemble de l'actualité de la semaine, il faut qu'on parle, qu'on évoque Satoshi Nakamoto. Que devient-il, Satoshi Nakamoto ? On a un peu de nouvelles récentes, n'est-ce pas ? Eh bien, Satoshi passe devant la justice, c'est son procès.
Aïe !
Le faux Satoshi, mais ça va. C'est juste un homme qui prétend être Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Il s'appelle en fait Craig Wright, c'est un Australien. Et son procès, son nouveau procès, c'est pas le premier, s'est ouvert cette semaine. A priori, on verra, a priori, c'est un affabulateur. En tout cas, en 8 ans, il n'a encore apporté aucune preuve de ce qu'il avance. On appelle ça un fake Toshi. Il est a priori l'un des nombreux fake Toshi. Thibaut.
Ouais, sans doute l'un des plus connus. Craig Wright, c'est un des personnages sulfurés de notre écosystème, dont on se passerait volontiers. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Donc effectivement, il repasse devant la justice pour un procès. Donc ça fait plus de 8 ans maintenant qu'il s'est déjà revendiqué comme étant Satoshi, sans jamais être capable de le prouver. C'est en partie ce qu'on lui reproche. Il a même d'ailleurs essayé déjà de le prouver avec des preuves qui n'étaient pas reçues. Il est connu d'ailleurs de la justice pour fournir des preuves qui sont erronées. Donc là, il se fait attaquer par un organisme qui s'appelle la COPPA, qui en gros est un organisme qui vise à défendre la partie open source de Bitcoin et de défendre, entre guillemets, les développeurs qui vont contribuer aux fonctions de Bitcoin. Et donc là, eux, on prend un peu le sujet sur le ton de l'ironie, mais eux, ils partent vraiment dans une quête hyper sérieuse dans le but de le rendre, entre guillemets, hors d'état de nuire parce que il a un certain nombre d'actions en justice qui ont été menées de sa part contre des développeurs Bitcoin, où il leur réclame de l'argent, où il leur réclame des modifications sur les protocoles pour récupérer des fonds qu'il aurait soi-disant perdus. Et bah, tout ça peut à terme décourager finalement des gens de venir développer sur Bitcoin, et donc ça peut être néfaste pour l'écosystème. Donc c'est intéressant quand même ce procès, il faut pas le prendre à la légère, et ce qui est intéressant, c'est de voir la justice qui cette fois se positionne plutôt contre ce personnage en lui disant bah, maintenant tu vas devoir fournir des vraies preuves, sinon il y aura pas de retour en arrière quoi.
Donc vous allez suivre ce procès quand même. Voilà.
On va regarder le dénouement, on va pas le suivre tous les jours.
Aucune preuve que Satoshi c'est lui, mais nous on vous interroge. Voici venu le moment de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Crypto notamment. Thibaut et Claire, êtes-vous prêts ?
On est prêts.
Nous sommes prêts.
Voici la question crypto qui claque de la semaine, puisqu'on évoquait Satoshi Nakamoto. Avec qui préféreriez-vous passer vos vacances d'hiver dans un chalet ? Avec Satoshi Nakamoto, mais le vrai. Avec Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Avec Gary Gensler, la SEC. Ou pourquoi pas une semaine dans un chalet avec Christine Lagarde. Je vous laisse réfléchir. Claire.
Moi, je dirais Christine Lagarde.
Thibaut.
Moi, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être vu avec tous, sauf Satoshi, parce que j'ai pas envie de savoir c'est qui, et c'est mieux que personne ne le sache. Mais avec les trois autres, ça peut, quoi qu'il arrive, être des discussions intéressantes.
Il est resté pur, Thibaut. Effectivement. Vous aussi, chez vous.
Comment ? T'es consensuel.
Exactement.
Ouais, il se moque pas, on l'a remarqué. Pas la première fois, d'ailleurs. Vous aussi, chez vous. Vous aussi, vous avez peut-être un avis aussi tranché que nos pros des cryptos, sauf Thibaut qui est pas tranché. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux BFM Crypto, à continuer de voter d'ailleurs, hein, le vote reste ouvert, et à commenter. Laissez-nous l'ensemble de, vos avis, vos opinions en commentaire, bien sûr. Claire, vous dites, quitte à passer une semaine vacances d'hiver comme ça dans un chalet, plutôt que Satoshi Nakamoto, plutôt que Gary Gensler, plutôt que le patron, le fondateur d'Ethereum, vous préféreriez passer cette semaine avec Christine Lagarde? Ah,
ouais.
On n'avait pas pu venir.
Mais il se trouve que j'ai discuté un jour avec quelqu'un qui avait passé des vacances avec Christine Lagarde et qui m'a dit qu'elle était super sympa.
Ah oui.
Donc voilà. Et en plus de ça, j'ai pas forcément envie de parler crypto pendant mes vacances au chalet, donc j'ai pas besoin d'aller voir Vitalik Buterin.
Oui. Enfin, on a quand même besoin toujours d'un traducteur quand on côtoie Christine Lagarde. Elle a le langage des banquiers centraux, vous savez. Et les banquiers centraux, ce qu'ils ont coutume de dire, c'est que si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé.
Peut-être pas en vacances.
Peut-être pas en vacances, effectivement. Et nos auditeurs et téléspectateurs, leur vote majoritaire, ils se reportent sur qui ? C'est pas une très très grande surprise. Contrairement à vous, Thibaut, la majorité se reporte sur Satoshi Nakamoto. Vous êtes 58% à vouloir passer, pourquoi pas, une semaine dans un chalet avec Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin. Juste derrière arrivent Christine Lagarde et Vitalik Buterin. Égalité à 17%. Et puis loin derrière, le tout dernier, c'est Gary Gensler. Ah, il ne fait pas rêver, le patron de la SEC.
Il a l'air moins sympathique.
Oui, c'est ça.
Il y a des commentaires sympas, d'ailleurs, pour ceux qui ont choisi de voter. Laissez leurs commentaires. Vous nous avez laissé même parfois des photos, des gifs, notamment Fruit de la Passion, c'est son surnom sur les réseaux sociaux, sur X, Fruit de la Passion, qui dit « Moi, je passerais bien une semaine avec Christine Lagarde si c'est la BCE qui paye la semaine. » Voilà. Bon, c'est la question crypto qui claque chaque semaine. On va revenir à l'actualité, se rebrancher à ce qui a marqué cette semaine d'actualité crypto, côté espagnol. L'Espagne pourrait bientôt saisir, figurez-vous, les cryptos des particuliers qui ne payent pas leurs dettes. Le Trésor d'Espagne vient de proposer une réforme de l'imposition qui autoriserait la saisie des cryptos pour les contribuables qui ont des dettes fiscales. Est-ce que, Claire, c'est seulement possible, par exemple, si je détiens mes cryptos sur une ledger ? Est-ce que l'État pourrait, comme ça, venir saisir mes cryptos, même sur une ledger ?
Alors, le premier moyen pour l'État d'opérer de cette manière, c'est plutôt d'aller chercher les entreprises. Donc, c'est d'aller forcer les plateformes d'échange, par exemple, à collaborer et à effectuer des saisies sur les cryptos qu'elles détiennent pour vous. Donc, effectivement, là, on ne parle pas de self-custody. Mais on va demander aux plateformes d'échange de faire exactement la même chose que ce qu'on pourrait demander à une banque, et donc d'opérer des saisies pour le compte de l'État. Maintenant, si vous détenez vos crypto-monnaies sur votre ledger, vous êtes quand même tenu de ne pas les dissimuler, notamment dans le cas où vous avez des dettes. Et donc, ce qui est prévu côté espagnol, c'est une amende dans le cas de dissimulation de crypto-monnaies lorsque l'État vient effectuer des saisies. Et donc cette amende, alors les sources disent ça peut être 20 000 euros ou ça pourrait être 15% de vos économies. Donc si vous dissimulez des crypto-monnaies comme vous pourriez dissimuler une valise de cash sous votre matelas, techniquement vous pouvez le faire, mais ça reste illégal.
Et donc l'Espagne pourrait faire un saut et saisir les cryptos des particuliers qui ne paient pas leurs dettes. Ce sera à suivre, bien sûr. Tenez-vous au courant au quotidien. BFM Crypto, c'est les pros le vendredi. Et bien sûr, Amaury Tonquedec et ses experts. Le club BFM Crypto du lundi au jeudi, même endroit, même heure à 15h. Et puis la chaîne YouTube, bien sûr, BFM Crypto. C'est une association qui fait grand bruit. Deal, oui. Deal cette semaine entre MetaMask et Robinhood. Bien connu Robinhood dans l'univers du trading. 20 millions d'utilisateurs. Qu'est-ce que MetaMask a y gagné et qu'est-ce que Robinhood a gagné à choisir MetaMask?
Ouais, deux géants de leur secteur respectif qui s'associent assez logiquement compte tenu de la direction qu'ils prennent. Donc en gros, qu'est-ce que va permettre ce partenariat? Il va permettre aux utilisateurs de MetaMask qui ont un compte Robinhood de pouvoir avoir accès à certains services et de pouvoir faire de la collecte depuis directement leur wallet MetaMask. Qu'est-ce que ça a pour intérêt pour un MetaMask? Bah, ça leur permet d'étendre leur service, de gagner un petit peu en expérience utilisateur, d'enrichir le catalogue, etc. Et côté Robinhood, et bah, ça va dans la suite de ce qu'ils font, de s'implanter un petit peu plus dans le secteur crypto, de parler à une cible différente, peut-être un petit peu plus technophile, qui touche pas forcément aujourd'hui avec Robinhood, et de saisir un nouveau marché. Donc, beaucoup d'utilisateurs, pour moi, il y a beaucoup plus d'intérêt pour Robinhood que pour MetaMask dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est assez logique de voir ce genre de partenariat qui se multiplient.
Effectivement, Robinhood et MetaMask. En revanche, chassé le naturel, il revient au galop. Solana, alors que ça lui était plus arrivé depuis presque un an. Solana s'est retrouvée à l'arrêt cette semaine pendant plusieurs heures. On en avait perdu l'habitude. Que s'est-il passé? Et est-ce que ça compromet, Claire, encore un peu plus l'avenir de cette blockchain?
C'est sûr que ça fait tâche. Et surtout, ironie du sort, ça faisait 300 jours qu'il n'y avait pas eu de panne sur Solana. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, on avait des pannes quand même assez régulières sur Solana. Et Solana avait aussi beaucoup pâti de la chute d'FTX, puisque Sam Bankman-Fried était l'un des principaux contributeurs, l'un des principaux bailleurs de fonds de Solana. Donc ça fait un moment que cette blockchain a une réputation un peu sulfureuse, notamment sur le plan technique. Et c'est assez paradoxal parce que de l'autre côté, sur le plan marketing, la Solana Foundation met le paquet. Ils ont ouvert une boutique à New York, ils sortent un téléphone portable spécifique pour le Web3. Donc on sent qu'ils ont vraiment envie que cette blockchain soit adoptée, mais de l'autre côté, on se retrouve avec des pannes où pendant plusieurs heures, il n'y a aucun bloc, il n'y a aucune transaction qui passe. Et là, quand on lit le rapport d'incident, il parle d'un mainnet bêta. Donc il considère que Solana est toujours en version bêta, alors qu'on parle de la cinquième plus grande blockchain. Donc ça commence à faire grincer des dents, parce que à ce stade-là, on peut plus dire qu'on est en bêta. Ça sonne un peu comme une excuse finalement pour justifier les pannes.
Solana, il y avait eu un petit revival ces dernières semaines.
Oui, on en avait parlé la semaine dernière, parce que le cours était monté, tout à fait.
Bon, patatras, c'était plus arrivé depuis un peu plus de 300 jours, je crois. Solana s'est retrouvée à l'arrêt cette semaine pendant plusieurs heures. Est-ce que les airdrops restent nécessaires à l'écosystème? Je vous pose la question parce que on a eu un énorme airdrop sur du stacking. D'ailleurs, 700 millions de dollars ont été distribués. Je vais pas vous demander de commenter ce airdrop, on n'est pas là pour faire la pub commerciale des différents produits. En revanche, est-ce que cette pratique des airdrops au sens large, c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'elle se développe toujours, cette pratique d'airdrop, ou est-ce qu'enfin l'écosystème crypto a atteint une maturité qui va peut-être lui permettre de moins dépendre de ça pour lancer des projets,
Thibault? C'est une vraie très très bonne question, et je pense que d'ailleurs on va se la poser encore plus dans les mois à venir, vu la tournure que c'est en train de prendre. Déjà, c'est pas nouveau, les airdrops. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs airdrops significatifs sur les quelques dernières semaines. Mais ça existe depuis aussi longtemps que je m'intéresse au sujet crypto. Donc c'est pas une nouveauté en soi. Après, le airdrop, c'est un mécanisme dont on peut ajuster le curseur. Donc on peut faire des airdrops qui vont avoir un bénéfice très très profitable au projet et d'autres qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour un projet. Donc ça dépend vraiment de comment on place le curseur, mais ce qui est certain, c'est un outil qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. J'ai en tête par exemple un projet francophone qui s'appelle Paraswap, qui a un outil qui fonctionne super bien, qui est utilisé tous les jours avec énormément de transactions. Et eux, ils ont fait un airdrop il y a 3 ans qui a été plus ou moins apprécié par la communauté. Et aujourd'hui, sur les réseaux, quand ils font des sorties médiatiques, il y a encore des gens qui viennent leur taper dessus pour le airdrop alors que leur produit est bon. Donc, in fine, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un bon produit et un airdrop qui était moins bien fait que l'inverse? Donc, il faut qu'on fasse très attention à la manière dont se développent les airdrops. On voit que les critères d'éligibilité sont de moins en moins quand même exigeants. On peut rentrer dans une spirale qui est un petit peu malsaine saine. Donc il faudrait être vigilant et c'est très bien d'engager beaucoup de monde, mais est-ce que c'est pas mieux d'engager moins de monde qui vont s'intéresser au projet? Ça, c'est toujours en fonction des objectifs du projet, ça va être des curseurs qu'il faut placer.
Vous dites que les airdrops sont dans le paysage depuis que vous suivez les cryptos. Vous les suivez depuis quel âge? Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à suivre?
Alors là, je ne sais plus, mais depuis 2015-2016.
Ouais, vous aviez quel âge alors à l'époque? C'était il y a 8 ans.
J'avais 18-19 ans.
Ah, vous, Claire, vous aviez quel âge quand vous avez commencé à vous y intéresser?
22-23.
Ah, un peu plus tardive. Bon. Justement, Claire, vous vouliez dire un mot pour conclure sur, quand même, Nayib Bukele, le président du Salvador qui a été réélu, le premier à avoir choisi Bitcoin comme devise officielle. Il a été réélu, c'est un fait. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer du Bitcoin au Salvador et est-ce qu'il a été imité par d'autres pays d'ailleurs depuis?
À ma connaissance, il n'a pas été imité par d'autres pays.
Et pas la République centrafricaine à un moment?
À un moment, on a pensé à la République centrafricaine, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Alors sur Bitcoin au Salvador, c'est très difficile de se faire un avis parce que mon sentiment quand on lit la presse, c'est que globalement, quand Bitcoin monte, on voit apparaître des articles qui disent le pari gagnant du Salvador. Et quand le prix du Bitcoin baisse, on voit apparaître des articles qui disent le Salvador va s'effondrer à cause de son choix douteux de faire du Bitcoin monnaie ayant cours légal. Donc voilà, c'est encore très tôt pour savoir. Il y a un sondage qui est sorti qui dit que 12% des Salvadoriens ont utilisé Bitcoin l'année dernière dans des transactions du quotidien. Donc c'est pas beaucoup, 12%. Maintenant, Bitcoin est monnaie légale au Salvador que depuis un an et demi, deux ans maintenant. Donc, on peut dire que 12%, c'est peut-être pas si mal. Dans tous les cas, le bilan est sans doute beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut voir dans la presse, qui est souvent soit très négatif, soit très positif.
Les pros des cryptos, chaque vendredi, et nos experts, nos NFT à nous, rien qu'à nous, nos talents non fongibles, Thibaut Boutroux.
C'est ça.
À chaque fois, je veux dire Thibaut Moureux, parce que c'est un analyste financier qui nous accompagne régulièrement sur BFM Bourse. Mais on est ici dans les pros des cryptos, et c'est Thibaut Boutroux. Merci Thibaut.
Merci à
toi. Meria, régulièrement à nos côtés. Salut Thibaut, merci d'être passé nous voir à Paris. Merci Claire.
Merci.
Chaque fois en plateau avec nous, elle répond toujours à l'appel de BFM Crypto. Merci beaucoup Claire. Des blocs à nos côtés également. Les pros des cryptos, retrouvez également tout au long du week-end sur notre chaîne YouTube.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.